terme, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, les jeunes totalement
responsables. Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, sur le 102.2 et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Ce soir, on vous parlera notamment du mouvement Nuit Debout et des actions qui ont été coordonnées, organisées cette semaine, surtout à Lyon. On vous parlera surtout de Lyon. Pour le reste, vous pourrez, on vous orientera vers de la presse spécialisée.
D'accord, alors parce que moi je suis censé faire le film et là je reprends, oups, ça fait une grande catégorie un peu, donc j'ose pas détailler.
Oh bon, donc, peut-être qu'on la détaillera le moment venu.
Ouais voilà, c'est ça, donc je peux dire, bah la suite c'est qu'il y aura une musique.
Voilà, il y aura une musique. Et aussi normalement on devait commencer avec un entretien de membres représentantes du collectif Unitaire 69, on espère qu'ils vont venir, ils ne sont toujours pas dans les studios, donc ça commencera sans doute vers 19h30, disons.
Et après, on va parler d'un local de la CNT hein, qui a été cassé par des casseurs, des violents casseurs à Lille.
Ouais. On détaillera les actions et enfin ce qui s'est passé et puis les suites de tout ceci. Et petite rubrique nationale d'outre-mer, puisqu'on vous parlera de la très peu médiatisée grève générale à Mayotte.
Et puis on continuera bien sûr avec les nouvelles du Kurdistan comme chaque semaine maintenant.
Voilà, nouvelles du Kurdistan avec une nouvelle voix pour couvrir ces nouvelles. Et on finira par l'agenda.
Lyon, capitale de la résistance. Lyon, capitale de la résistance.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous voyez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes en chantant.
Alors, bonsoir à nouveau. Il y a les personnes représentantes du collectif Unitaire 69 qui arrivent directement dans les locaux. Donc, on va peut-être commencer l'entretien avec vous, puisque vous êtes un peu. Vous devez partir assez tôt, j'ai cru comprendre.
Oui, exactement. Voilà. Peut-être juste resituer le collectif Unitaire 69. C'est un collectif qui s'est créé en 2014. Lorsque l'UNEDIC a voulu faire passer la nouvelle convention d'assurance chômage contre laquelle nous sommes battus, et nous avons gagné puisqu'il y a eu un recours au Conseil d'État et cette convention a été invalidée. Et nous sommes toujours là parce que bien sûr l'UNEDIC, le MEDEF et compagnie continuent encore à nous mettre des bâtons dans les rues, dans les rues. Et donc c'est un collectif qui réunit des chômeurs, des intérimaires, des précaires et des intermittents. D'accord. Voilà pour la brève présentation du collectif Unitaire 69. Et donc, je cède la parole à Pauline.
Eh oui, parce que du coup, on est là parce qu'on a des choses à dire. Là, il y a le petit récap.
Mais on avait envie de vous lire le communiqué qui a été préparé par Recours Radiation, les Matermittentes et la Coordination Nationale des Intermittents et Précaires.
Alors c'est un communiqué qui a été préparé là
alors,
ce soir
été... enfin, non, il n'a pas été préparé là ce soir, il a été préparé à la réunion qui s'est faite à Strasbourg là, du 15 au 17 avril de cette année. Et puis c'était hein, sur les appels assemblées générales également à partir de la semaine du 18 avril.
Je peux te couper juste deux secondes pour que tous les auditeurs comprennent bien. Le collectif Unitaire 69, il regroupe quels travailleurs ?
Alors c'est vraiment, donc il y a essentiellement des intermittents, mais c'est aussi les intérimaires, les chômeurs et les précaires.
D'accord.
Donc c'est toute personne en situation de précarité.
D'accord, très bien. Donc vas-y, je t'en prie, excuse-moi.
Non, mais pas de souci. Du coup, ce qu'ils ont eu à dire, c'est que depuis 30 ans, les gestionnaires de l'assurance chômage détournent nos cotisations, contractent des emprunts sur les marchés financiers, fabriquent la dette au seul profit des créanciers. Et aujourd'hui, sous pression de Bruxelles, le gouvernement demande de faire 800 millions d'euros d'économies par an sur le dos des chômeurs au nom de cette dette. Ce système dette n'est qu'un outil pour précariser encore davantage nos existences. Cette dette n'est pas la nôtre, nous ne la paierons pas. Levons le voile sur la dette de l'UNEDIC par un audit citoyen. Ça, on y reviendra. Cette gouvernance mafieuse offre au MEDEF, syndicat des grandes entreprises et du CAC 40, le pouvoir de dicter les règles d'indemnisation des chômeuses et chômeurs. Cette mascarade de dialogue social ne sert que les intérêts de ceux qui la diligentent. Nous exigeons la sortie du MEDEF des instances paritaires, de l'UNEDIC et de la Sécurité sociale. Nous exigeons une autre gouvernance de l'assurance chômage. Aujourd'hui, 90% des embauches se signent en contrat court et ou précaire. CDD, CDI, activité réduite, etc. La discontinuité de l'emploi se généralise. Nous sommes ou deviendrons toutes et tous des intermittents, intermittentes de l'emploi. À rappeler aussi que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Nous exigeons que 10 chômeurs sur 10 le soient. Les chômeurs sont contrôlés et traqués. Nous exigeons la fin des contrôles par Pôle emploi. Partout en France, un mouvement social s'amplifie de jour en jour sur toutes les places publiques et réunit les citoyens de tous horizons. Nous nous inscrivons dans la convergence des luttes qui se construit sur le rejet total de la loi travail. Nous, précaires, chômeuses et travailleurs en emploi discontinu, appelons les cheminotes, les agents hospitaliers, les enseignantes, les fonctionnaires, les retraités, les saisonniers, les intérimaires, les chercheuses, les artisans, les professions libérales, les paysannes, les auto-entrepreneurs, les stagiaires, les TPE-PME et tous les concernés, quel que soit le secteur, à rejoindre le mouvement. Nous appelons bien évidemment à la grève générale et au blocage économique par tous les moyens possibles, jusqu'à ce que nos propositions soient entendues et mises en œuvre. Ce que nous le défendons pour tous. Donc ça, c'est le communiqué qui a été fait. Et suite donc à l'AG, qui a été faite cette semaine qui vient de passer, on invite également donc toutes les personnes qui se sont senties concernées par ce communiqué de nous rejoindre lundi, voilà, s'ils n'ont rien à faire, rien de prévu, ou qui veulent poser aussi un jour de grève, c'est possible. Donc collectif unitaire, on vous invite à faire un petit tour du propriétaire, parce que nous avons découvert qu'en fait nous étions à la mer, à la montagne et en ville, propriétaire. Voilà, donc il y aura une pendaison de crémaillère lundi avec 3 lieux de rendez-vous pour venir à cette fête, et vous trouverez les informations pour venir fêter ça sur le Facebook du collectif Unitaire 69, sûrement sur les mails également, les mailing lists que si vous y êtes inscrit. Et
sur Google, vous tapez collectif Unitaire 69, on a un blog.
Voilà.
Donc le rendez-vous exact sera donné au moment
sur place.
Voilà. Okay, voilà. Lundi. Ok.
On ne peut pas en dire plus.
Enfin, les points de rendez-vous vont être donnés ce week-end via Facebook, les blogs dont on vous a parlé. Après, là où on va, bien évidemment, ce sera Ce sera lundi.
Venez avec vos instruments de musique, avec vos ballons, vos cotillons, vos langues de grand-mère et votre bonne humeur.
Et puis un petit pique-nique participatif aussi, voilà quoi. Enfin, c'est une pendaison de crémaillère.
Et ça se joue que à Lyon et dans le 69 ou ça se joue
Non, c'est une action nationale. C'est un appel à l'action nationale. Donc dans d'autres villes en France, ce sera fait.
D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui, vas-y.
Eh bien, nous avons un commun niqué, qui est une parodie du communiqué que vous avez entendu. Et donc, on m'a demandé de le transmettre. Alors, le commun niqué du 69 mars 2016, coordination nationale de la saucisse de Strasbourg. Pas de doigts au travail, sans doigts au chômage. Nous affirmons des positions collectives pour dénoncer le non-recours aux doigts. La lutte des doigts au chômage, c'est mon fils, ma bataille, et faut pas qu'elle s'en aille. Le trou de l'une est dique, l'autre reverse, et nous le comblerons pas. Pas de consensus dans les annexes. Nous exigeons une période de défonce sur 12 doigts, avec le choix dans la date. Nous exigeons un changement radical de posture. Il faut grossir nos doigts pour élargir le nous. De la nuit des bouts, quelque chose va sortir. Ils devront l'avaler. Appuyons de toutes nos forces pour défoncer leur dette de nœuds. Que le MEDEF s'occupe de son trou, ce n'est pas le nôtre. Nous avons des doigts, nous saurons les sortir et les faire valoir. Et que les confédérations des glands du travail se démerdent. Nous exigeons l'obit de la quéquette. Nous devons soumettre la gouvernante, elle doit se plier à nos désirs. Nous exigeons de changer de gouvernante, nous tenons à nos libertines, à nos catins. Partout en France, un mouvement de va-et-vient s'intensifie au jour le jour, la nuit debout. Au mètre en profondeur, à partir du 20 avril, on ne jouit plus, mais nous saurons tenir la longueur. Nous appelons au bondage et à la grève congénitale jusqu'à ce que nos positions soient entendues, qu'elles soulagent les bourses. Oui, nous partons dans tous les sens, mais ce que nous défonçons avec tous, nous les défonçons dans tous. D'accord. Voilà.
Très très chaud le collectif.
C'est très très chaud. Ben, ça s'appelle le Q69. Il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Voilà, voyez, on s'ennuie pas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et je voulais juste faire peut-être une petite explication. On parle d'audit citoyen. C'est vraiment un audit citoyen autour de la dette qui va être mis en place. D'accord. Qui est en train de se mettre en place.
D'accord. Très bien. Très voilà. Bien. Eh bien, merci bien d'être venu.
Ben, merci à vous.
On continue donc le Canu Info du vendredi 22 avril et on va vous parler de Nuit Debout et des mouvements, notamment à Lyon cette semaine. On commence par se demander...
Est-ce que Bernard Arnault va bien? Est-ce qu'un CRS s'est déjà retrouvé en face à son enfant dans une manifestation? Est-ce qu'on va discuter encore longtemps? Est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on est en position de réfléchir?
Est-ce que la lutte est compatible avec l'absence de risque? Est-ce qu'il faut espérer des morts pour que les choses bougent vraiment? Est-ce que c'est mal d'espérer des morts? Est-ce que la lutte sociale est compatible avec le fait de s'attaquer physiquement à des êtres humains?
Est-ce que certains sont plus coupables que d'autres? Est-ce que les CRS soutiennent le Parti Socialiste? Est-ce que les CRS pleurent le soir en rentrant chez eux? Est-ce que c'est bien utile de discuter quand en face, on nous frappe? Et est-ce qu'il faut aider le monde à s'écrouler plus vite?
Est-ce que j'ai envie de me battre aux côtés de types qui crient aux policiers que ce sont des PD? Est-ce que j'ai envie de laisser ce système nous faire nous manger du dedans pour toujours? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que les CRS ont peur? Est-ce que Bernard Arnault a la belle vie?
Est-ce que patron de L'Oréal en 2016, c'est comme SS en 45? Est-ce que parce qu'on ne les voit pas, les victimes n'existent pas? Est-ce que quelqu'un qui passe sa vie à travailler pour acheter des objets, somme toute inutiles, peut être considéré comme une victime? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un libre arbitre? Est-ce que j'ai un libre arbitre?
Est-ce qu'il n'y a que deux choix entre ne pas se poser de questions et s'en poser à longueur de temps? Est-ce que si on s'y mettait, on ne serait pas un peu moins chacun de notre côté? Est-ce que se battre contre les CRS, c'est pas la seule chose que je partage avec les mecs de mon âge qui vivent dans les cités? Est-ce que se sentir vivre en dansant au milieu des lacrymos, c'est un bon début? Est-ce qu'il y a un minuscule espoir pour que parler soit utile?
Est-ce qu'il y a un minuscule espoir que réfléchir soit efficace? Est-ce qu'il y a une seule révolte dans le monde occidental qui se soit faite sans violence? Est-ce qu'il faut tendre l'autre joue? Est-ce qu'un CRS s'est déjà retrouvé face à son enfant, dans une manifestation? Est-ce qu'un CRS qui tape sur ceux dont provient son salaire peut être accusé de rébellion contre la hiérarchie?
Est-ce que la hiérarchie, c'est bien la pointe vers le haut? Est-ce qu'on ne voit pas que tout ce socle les soutient? Est-ce que sans nous, il ne serait rien. Est-ce que l'on sait, mais qu'on ne veut pas se l'avouer parce qu'on n'a pas le courage de se révolter? Est-ce que le chauffage en hiver et les terrasses en été valent le coup?
Est-ce qu'on se tient à carreau pour une bière et 3 degrés de plus? Est-ce que ça vaudra le coup d'être en sécurité toute sa vie si on n'a pas le temps d'en profiter? Est-ce que la machine se sent en sécurité? Est-ce qu'on va continuer longtemps à espérer que les gens travaillent alors qu'on les licencie? Est-ce que les robots auront les couilles avant nous de s'énerver vraiment?
Est-ce qu'un robot, ça craint la lacrymo? Est-ce que dans les manifs, les robots prendront de l'anti-rouille au cas où ils sortiront les canaux à eau? Est-ce que les robots auront une intelligence artificielle assez naïve pour espérer dialoguer avec les humains? Est-ce que Bernard Arnault est un humain?
Est-ce que Bernard Arnault pleure parfois? Est-ce que parfois Bernard Arnault rit sans raison alors qu'il est tout seul juste parce qu'il repense à un souvenir heureux? Est-ce que parfois Bernard Arnault sourit sans penser à de l'argent? Est-ce que Bernard Arnault a peur de la mort?
Est-ce qu'il rentre parfois le soir en se disant que ça a été une belle journée? Est-ce qu'il tiendrait le coup si l'on l'enfermait 12 heures dans un caisson d'isolement? Est-ce que Bernard Arnault va bien? Est-ce que Pierre Gattaz va bien? Est-ce que tous les patrons du CAC 40 vont bien?
Est-ce que la joie a un prix? Est-ce qu'on pourra acheter bientôt des crédits de Bonheur Discount? Est-ce qu'il y aura des packs promo, un joint plus une série télé, plus un demi de bière, plus un mois de chauffage? Est-ce qu'il y en aura dans les boîtes de céréales? Est-ce qu'on en donnera aux stagiaires pour les attirer à l'entrée des boîtes?
Est-ce qu'un crédit de bonheur, c'est moins cher qu'un an de vie? Est-ce qu'être heureux, c'est pas un peu triste? Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de croire savoir ce que c'est que d'être heureux? Est-ce que Bernard Arnault va bien? Est-ce qu'on va être heureux un jour?
Est-ce qu'être heureux, c'est vivre? Est-ce que lutter, c'est vivre? Est-ce qu'on peut lutter à être totalement heureux et être totalement heureux à la fois? Est-ce qu'on peut se sentir vivre si on est tout le temps heureux? Est-ce que faire la guerre, c'est mal?
Est-ce que c'est juste parce que l'histoire va moins vite qu'une vie humaine qu'on a peur? Est-ce qu'on a besoin de voir les conséquences positives de nos actes pour y croire? Est-ce qu'on croit en nous? Est-ce qu'il faut oser dire qu'on a raison? Est-ce qu'on peut encore discuter?
Est-ce qu'il faut encore réfléchir? Est-ce qu'on n'est pas un peu tous d'accord dans le fond? Est-ce qu'on n'a pas juste peur? Est-ce qu'on n'aime pas un peu trop la bière et le chauffage? Est-ce qu'à 91 ans, on pleurera en se traitant de trouillard?
Est-ce que la violence ne résout rien? Est-ce que le gouvernement a le droit d'utiliser la violence et nous non? Est-ce qu'il faut tendre l'autre joue? Est-ce que les CRS vont retourner leur veste parce qu'on les laisse nous frapper? Est-ce qu'on a du poids en frappant des CRS?
Est-ce qu'on a du poids en criant dans la rue? Est-ce qu'on a du poids en bloquant des usines? Est-ce qu'on a du poids seulement quand des humains perdent de l'argent? Est-ce que les CRS sont prêts à mourir pour la France? Est-ce que les CRS sont prêts à mourir pour le Parti Socialiste? Est-ce qu'on continue à croire encore un siècle que les partis politiques servent à quelque chose?
Est-ce qu'on continue à croire encore un siècle qu'élire des gens pour prendre les mauvaises décisions à notre place est la meilleure solution? Est-ce qu'on continue encore un siècle à ne pas oser se planter? Est-ce qu'on continue à cracher sur ceux pour qui on a voté? Est-ce qu'on continue à voter? Est-ce qu'on continue à montrer du poing les salauds sans se regarder dans une glace?
Est-ce qu'on continue? Est-ce que Bernard Arnault va bien?
Et voilà, c'était un petit texte trouvé sur Rébellion avec toute une somme de questions qu'on peut un peu tous et toutes se poser dans ces semaines de lutte et de panique. Et du coup, petit retour sur la semaine à Lyon en tout cas. Petit retour rapide, hein, parce qu'il y a surtout eu deux événements. Il y a eu, dans la nuit de lundi, un des plus terribles attentats qu'ait connu la France ces derniers temps, puisque c'est une attaque à l'œuvre de peinture. Donc, sur, bien sûr, les bureaux du MEDEF. Alors, il y a eu un petit communiqué, donc on va vous le lire. C'est « Paniquez pas, niquez le MEDEF, communiqué suite au ravalement de façade de l'antenne Rhône-Alpes. Puisque Pierre Gattaz n'a pas dit bonjour, puisque tout le monde déteste les Macron, puisqu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, puisque le seul langage qu'ils comprennent, c'est la violence, puisqu'on ne sait toujours pas si Bernard Arnault va bien, puisque les poules en cage font des œufs imbouffables, puisqu'il y a que les bourgeois pour croire qu'on leur envie ce qu'ils ont, puisque le MEDEF est un repère de casseurs, puisque la nuit tous les chats sont gris, puisque nous ne serons heureux que lorsque le dernier des bureaucrates sera pendu avec les tripes du dernier patron, nous avons décidé de passer à l'action. Ce n'est qu'un avertissement, à bientôt. Signé Pierre Gattaz et sa bande de copains casseurs, avec un petit PS, on s'est bien amusé, bisous.
Ils ne sont pas dénués d'humour.
Et du coup, après la suite de la semaine, pour juste le fil commencer à dérouler, il y a eu mercredi, alors ça a commencé avec un rassemblement Place du Pont
dans le cadre de l'appel national contre la répression, suite d'un péage gratuit qui a bien fonctionné. Enfin, ça veut dire qu'ils ont récupéré de la thune et qu'ils n'ont pas eu de soucis avec les keufs. Ils ont su partir à temps. Mmh. Et puis, dans la nuit, suite à Nuit Debout, une manif sauvage qui... sur laquelle on va revenir, mais qui s'est attaqué à différents lieux de la ville.
Voilà, voilà, parce que vous l'avez sans doute suivi, vous y êtes peut-être allé. Depuis début avril, les Nuits Debout lyonnaises se tiennent tous les soirs, place Guichard. Alors, on y est allé notamment hier soir, on peut y voir différents stands qui accueillent par exemple une cantine, de la lecture avec des brochures, fanzines, etc. Ou encore, par exemple, la caisse de solidarité qui a un petit stand qui vend du vin et de la bière pour ensuite soutenir les prévenus. Voilà, donc en fin d'après-midi, comment ça fonctionne? En général, en fin d'après-midi, vers 18h, une réunion commence par une assemblée. Alors ici, on l'appelle Agora. Et on peut y voir des tours de parole qui s'enchaînent. Puis, il y a des commissions ou des comités qui sont créés. Et ces commissions et ces comités se tiennent autour de l'Agora, c'est-à-dire sur la place Guichard, matériellement, là où il y a les sièges, hein, au centre de la place, c'est l'Agora, et puis autour, donc, les petites commissions et comités se tiennent. Hier soir, par exemple, il y avait un comité action, un autre sur la communication. Il y avait également certains petits groupes qui discuter de différents thèmes. On a pu entendre parler de nucléaire, d'agriculture, je crois, et ou encore de l'exploitation des animaux. Donc c'est des discussions très 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 variées. Et puis après ce travail, les différents comités reviennent au centre de la place, donc dans l'Agora, et ils partagent avec l'ensemble des gens qui sont restés et qui sont intéressés ce qui a été élaboré par ces différentes petites commissions. Voilà, ce retour sur travail, ça s'effectue en général vers 21h30, 22h. Alors, concernant le contenu, il me semble que le ton des interventions est plutôt varié et variable. On peut y entendre des prises de position très citoyennistes qui vont pour certaines jusqu'à proposer d'ouvrir les discussions et l'agora à la police et qui se réclament certaines et certains volontiers apolitiques. C'est-à-dire qu'on... même au-delà du fait d'être proche ou non d'un parti politique, c'est presque sans avis politique. Et il y a d'autres propos qui, au contraire, soulignent à l'inverse que Nuit Debout découle d'une mobilisation forte, d'un conflit avec le pouvoir, d'un engagement politique déterminé qui s'est matérialisé par des affrontements violents avec la police, et violents parce que la police protège violemment les intérêts de ceux qui nous gouvernent. Donc voilà, j'ai l'impression un petit peu que quelque chose se construit, mais on a peut-être un peu de mal à en prendre complètement la mesure et le pouls. Et c'est à savoir, est-ce que c'est un nouveau cri d'indignation et souvent donc un cri un peu impuissant puisqu'il demande des réponses au gouvernement, ou est-ce que c'est le début de quelque chose d'autre qui peut travailler lentement à la destitution du pouvoir? Voilà, donc le mieux, c'est sans doute, si vous n'y êtes pas allé, d'aller prendre la température là-bas et pourquoi pas grossir les rangs des déterminés qui aimeraient voir recommencer le début, et c'est-à-dire l'offensive, et déborder les regroupements des places gentiment tolérées. Donc voilà, ça vient de commencer ce soir, place Guichard, et ça recommence tous les soirs jusqu'à la fin du mois, a priori. A priori, parce que qu'est-ce qui s'est passé mercredi?
Oui, mercredi, donc avant-hier, le 20 avril. Donc il y a eu une manif sauvage, donc on va vous faire un petit résumé de ce qui s'est un peu passé. Donc en fait, c'était mercredi. Alors que l'agora quotidienne de la Nuit Debout touche à sa fin, une personne prend la parole pour proposer à celles et ceux qui souhaitent de finir ces discussions par une manifestation spontanée dans les rues de Lyon. Donc il y a beaucoup de gens qui applaudissent et la personne suivante propose d'ouvrir un tour de parole afin de choisir une destination. Et histoire en fait d'éviter l'erreur de la manif sauvage de la semaine d'avant, qui était partie un peu sans objectif, ou enfin c'était un peu flou pour les personnes qui étaient dans la manif. Donc voilà, donc c'était un peu pour clarifier le but. Et donc c'est ainsi qu'une intervenante rappelle que l'Hôtel Dieu, cette vénérable institution de la presqu'île au service de tous, a récemment été vendu à un groupe hôtelier et propose d'aller l'occuper. Donc son intervention est suivie par une autre expliquant que non loin de là, les services de la PAF, donc la police aux frontières, possèdent des bureaux ainsi qu'un tribunal et un commissariat. Parfait. Les propositions s'enchaînent, mais l'impatience grandit jusqu'à ce que quelqu'un lance grève, blocage, manif sauvage, et ça déclenche tout de suite l'action. Il n'en faut pas plus pour qu'une cinquantaine de personnes se lèvent, rejoignent le micro et partent en cortège devant l'école Mazeno, où se déroule la projection d'un film sur l'IP. Le temps que le cortège fasse le tour de la place, celui-ci rassemble désormais plus de 200 personnes. Donc la petite troupe avance en direction des locaux de la PAF et scande notamment « Grève, blocage, manif sauvage » ou « Solidarité avec les sans-papiers ». Arrivée devant les locaux donc de la PAF, la troupe s'échauffe doucement et quelques personnes taguent la devanture ainsi qu'une de leurs voitures garées devant. Puis quelques personnes s'approchent des vitres et après quelques coups, hop, la première tombe, puis très rapidement une autre, et sur laquelle était, on venait juste d'inscrire Le Monde ou rien. Les gens a priori ne semblaient pas s'être attendus à ça, mais l'expression de la colère est contagieuse. Les vitres du véhicule de la PAF volent elles aussi en éclats. Sur certains visages, la stupéfaction se transforme en une certaine joie. Et pour une autre partie de la foule, on sent que ces gestes sont moins évidents. Et plus tard, en discutant de leur impression avec des participants, on apprendra que certains n'avaient pas compris à ce moment que les vitres qui se brisaient étaient celles de la PAF. Et certains manifestants font à ce moment le choix de se séparer du reste du groupe, qui fait demi-tour donc sur la rue Servian. Dans cette même rue, un flottement de plus en plus important se fait sentir, et après s'être dirigé vers l'ouest en chantant quelques slogans, le cortège atteint le TGI, le tribunal de grande instance, dont les portes vitrées s'effondrent pendant que des slogans fleurissent sur la façade. Enfin, juste à côté, les vitres d'une banque tombent elles aussi. Cette dernière action va marquer la fin de cette manif, et les personnes encore présentes se dispersent rapidement dans les rues alentour. Donc voilà, c'était le petit récit, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Rébellion, de cette manif donc, qui s'est déroulée ce mercredi-là.
Et alors, suite à cette manif, il y a eu une convocation de personnes à la préfecture, puisque la nuit debout est tolérée, et il y a un accord de la préfecture pour occuper, pour rester sur la place Guichard.
Oui, donc hier, le préfet du Rhône, Michel Delpouech, a effectivement convoqué les trois personnes qui avaient déclaré le rassemblement jusqu'au 23 avril et a menacé par le chantage ce rassemblement en disant que soit Nuit Debout se désolidarise de toute action visant à déstabiliser les pouvoirs, soit le rassemblement se verrait interdit. Le préfet du Rhône l'a fait savoir dans un communiqué repris par l'AFP et largement relayé par la presse. Et il faut savoir que donc Michel Delpouech a reçu ces trois personnes lui-même et accompagné des responsables de la sécurité publique. Donc ce communiqué de presse, je vais vous le lire. Il dit « Le rassemblement Nuit Debout qui s'est déroulé place Guichard à Lyon 3e a donné lieu dans la nuit du 20 au 21 avril à des débordements sérieux. Issus du rassemblement, des groupes ont commis des dégradations sur les tribunaux de grande instance, sur l'immeuble de la direction zonale de la police de l'air aux frontières, ainsi que sur la façade de la mairie du 3e arrondissement. Ces agissements portent gravement atteinte à l'ordre public et ne sauraient être tolérés. » Michel Delpouech, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a convoqué ce jour à la préfecture les trois organisateurs qui avaient déclaré le rassemblement pour les mettre en demeure et faire en sorte que de telles troupes ne se renouvellent pas. Dans le cas contraire, il prendra sans délai une mesure d'interdiction. Donc voilà ce qui a été dit. Les personnes convoquées par le préfet ont affirmé pas soutenir ce type d'action. Donc il y a une des trois qui a parlé un peu au nom du groupe en disant on n'est pas d'accord avec ça, stratégiquement ce n'est pas pertinent, on est un rassemblement qui ne cautionne pas ce genre d'action. Ou encore quelqu'un d'autre qui a pu dire s'il y a des trucs violents qui se font, ça doit se faire ailleurs. Mais il est assez difficile de savoir si cette position un peu pro-mouvement pacifique, elle est majoritaire au sein des participants de Nuit Debout, puisque bah, on vous l'a dit, enfin on l'a dit tout à l'heure, c'est davantage un mouvement protéiforme et en construction. Et notamment donc hier soir, lors de l'assemblée de début de soirée rassemblant environ 200 personnes, peu de personnes ont appelé à se désolidariser de ce type d'action en fait, et un communiqué a pu être validé lors de l'AG après en deuxième partie de soirée qu'on va vous lire.
On vous lit ouais, ce communiqué. Alors je cite, nous rappelons qu'il n'y a pas de responsable de Nuit Debout et que chaque décision est prise collectivement dans par les personnes présentes au moment de chaque rassemblement. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2016, donc c'est celle dont on vient vous parler, une manifestation spontanée partie de la place Guichard visant les locaux de la PAF, le TGI et le Crédit Foncier et la BNP Paribas a abouti à des dégradations sur ces bâtiments. Face à l'injonction de la préfecture et des médias qui nous est faite de nous exprimer sur ces violences, nous condamnons avec la plus grande fermeté les violences policières commises lors de chaque manifestation et chaque jour, notamment celle de la PAF qui traque et expulse les sans-papiers. La violence judiciaire plus prompte à condamner les manifestants que les délinquants en col blanc. La violence de ceux des patrons qui acculent à la misère, la violence d'un système financier fondé sur l'évasion fiscale, la violence étatique qui stigmatise et discrimine des pans entiers de la population. Ce sont ces violences faites pour nous diviser que nous condamnons. Face à celle-ci, soyons plus unis que jamais. Voilà, donc c'est ce texte-là qui a été lu hier devant l'Agora vers 22h et qui a été à la quasi-unanimité approuvé par celles et ceux qui étaient restés dans l'Assemblée. Voilà pour ce qui s'est fait en début de semaine et jusqu'à hier. Quelques réflexions, puisque c'est un petit peu le sujet qu'on a couvert pour parler de ces manifestations à Lyon sur la violence, réflexion sur la violence.
Et oui, alors là on va vous citer des petits extraits d'un texte qu'on vous invite à lire sur lundi matin, dont le titre est « Réflexion sur la violence » et le sous-titre « Petit à petit, la question de la violence apparaît pour ce qu'elle est, une diversion ». Alors ce texte, il s'ouvre en rappelant que de plus en plus déjà dans les différents mouvements à l'échelle nationale, et là c'est un peu ce qui est en train de se passer avec ce communiqué à Lyon et dans les Nuits Debout, c'est que les gens refusent la dissociation entre casseurs et manifestants, et on entend de plus en plus parler de diversité des pratiques. Et cet article, il vise un petit peu à essayer de réfléchir ces questions des violences et surtout à aboutir au fait que le but, ce n'est pas de convaincre tout le monde que la violence est une option valable ou une voie nécessaire. Il s'agit simplement de trouver des formes d'action qui nous délivreront de la peur. Alors, quelques petits extraits, du coup, de cet article. Il est divisé en plusieurs réflexions. Alors, dans la réflexion numéro 1, ce qu'il nous propose, c'est que, premièrement, ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas qu'il y a des débordements autour de la Nuit Debout à Paris, c'est qu'il y en ait si peu. Parce qu'au fond, tout le monde comprend très bien pourquoi les gens qui se réunissent tous les soirs depuis 2 semaines pour réfléchir à la fin du capitalisme en viennent à exploser les vitrines de la Société Générale. Entre parenthèses, hashtag Panama Papers. Il nous propose un petit peu plus loin de ne pas oublier que si beaucoup de gens se tiennent à carreau en manifestation, ce n'est pas parce qu'ils sont viscéralement pacifistes, mais simplement parce qu'ils ont peur. Et qu'au lieu de parler de la violence, il faudrait arriver à trouver le moyen de dépasser cette peur, parce que ça, c'est une tâche collective qui ne s'accomplira jamais mieux que dans la rue, en faisant attention à tout le monde et pas seulement à ses amis, en veillant les uns sur les autres, même dans les pires situations des mouvements. Alors, on saute des réflexions que vous pourrez bien sûr retrouver sur lundi matin. On arrive à la réflexion 4. Petit à petit, la question de la violence apparaît pour ce qu'elle est, une diversion. Tant que nous continuons à parler de ça, et surtout à en parler en termes moraux ou idéologiques, nous n'affronterons pas les vrais problèmes stratégiques posés par les manifestations. Faire l'apologie de la violence, encore une fois, n'amènera à rien. Il y a déjà bien assez de gens prêts à se défendre de la police. Ce qui manque, c'est justement un cortège à protéger.
Réflexion 5, un petit peu plus loin, on dit, ils nous disent, pardon, on ne commence à lutter vraiment que lorsqu'on cesse d'être inoffensif. Cela semble peut-être tautologique, mais l'intégralité des forces syndicales passe son temps à affirmer le contraire. Leurs gestes dans la rue n'expriment que la soumission. Et donc, dans ce, quand ils développent un petit peu ce paragraphe, ce qu'ils expliquent, c'est que les manifestations ne doivent pas être qu'un simple rituel et qu'il faut réfléchir en termes d'offensive. La réflexion numéro 6. Alors, la police maintient l'ordre parce qu'elle est une protestation contre l'ordre des choses. Une manifestation est par essence un affrontement contre la police sous quelque forme que ce soit. Il y a donc, le soir venu, un gagnant et un perdant. Soit la police gagne, référence au 5 avril à Paris, soit les manifestants gagnent, référence au 31 mars un peu partout. La police gagne quand tout se passe comme prévu en préfecture, les manifestants gagnent quand ils débordent la police. Réflexion numéro... Là, les chiffres romains, 7. Oui, c'est un 7. De même, il n'y a pas grand-chose à dire d'une manifestation. Le dispositif policier n'a pas été remis en question. C'est pourquoi, dans le traitement médiatique d'une manifestation, on ne parle jamais que des débordements. Eux seuls signifient quelque chose. Dire que des affrontements ont eu lieu en marge du cortège a autant de sens que de dire des buts ont été marqués en marge d'un terrain de foot.
Punchline.
Réflexion numéro 8, et après c'est bientôt fini. La casse est la manière la plus simple, la plus évidente de déborder un dispositif policier. C'est aussi une des moins intéressantes et les plus ennuyeuses. Et là, il rappelle en fait que toutes les personnes qui souvent en fait se mettent à faire de la casse auraient bien envie aussi de tenir des barricades, de faire des manifs sauvages, de laisser des botagues, de tenir des bâtiments, de les occuper, etc., etc. Et que souvent c'est la répression qui fait qu'on en reste qu'à la casse et qu'on a bien des désirs qui sont bien plus élevés que ça. Et pour finir, ils disent « Nos cortèges commenceront à ressembler à quelque chose quand tout le monde y partagera non une tolérance de principe envers les actions des autres, mais une perception stratégique commune de la situation. C'est-à-dire quand nous percevrons toutes les manifestations comme des batailles qu'il faut gagner par tous les moyens. Quand nous serons tous enclins, non à la violence, mais à l'offensivité, à la vitesse et à la surprise. »
Un peu comme en Tunisie en 2011, on écoute donc Billy Brelock qui nous parle du mouvement des places en Tunisie.
C'est une vague sans précédent qui s'empresse et sort les dents, qui se dépêche, qui se défend et qui se dit prête à sauter dedans. Et s'il faut le faire à coups de pierre, la foule en fait son affaire et fonce d'une force de fer, c'est ça un vrai départ en guerre. Des darons, des darons, des banderoles, des cartons, des mots d'ordre fait maison et le delbord prend du galon. Le peuple encercle un palais qui ne dort pas et fait péter le couvercle de la boîte de Pandore. À 17h, les militaires jouaient les médiateurs, c'est te dire l'humeur amère et les aigreurs du parterre. La chaleur, son cratère, la teneur, ses manières, sonne l'air et l'heure et la colère du rouleau compresseur. Il te couche, c'est officiel, il te couche, prends ta belle, creuse ton trou, ferme ta gueule, puis lèche le boule de leur bulle. Trouble, éclat, coup d'état ou dictat du prolétariat, appelle ça comme tu voudras, les gars sont juste en bas de chez toi. Penali, descend, allez, descend, descend maintenant, les mecs qui sont bouillants, brûlants, bruyants. Ça t'embrouille brutalement, ça dérouille de tout pan, ça déboule de boucan, ça te casse les couilles, on est content. Ils sont mendiants, artisans, commerçants, paysans, militants, étudiants, petits parents et grands enfants. Qui crient non, non, c'est fini le temps du sultan. En donnant un slogan, c'est tu fous le camp, tu rends l'argent. Ben Ali sort du lit et l'allie au mari aussi. Dis-lui de remettre son bikini dans 5 minutes ici. On verra qui est-ce qui va kicker qui est-ce qui va qui sévit. Coule ta clique, t'écoute ce vie, vu que tes képis se font sévit. À coups de cailloux, crachats de coulis, de kills, de cocktails, de vessies. Sans devine, compromis, c'est caillasserie sur le pont-levis. On est vendredi et ça sent le crépit. Et l'envie de vous clouer au pilori. Mais la France propose ses services, le savoir-faire de sa police. Serrer la vis, pousser le sévice à ses novices de Tunis. Dresser le phénix, sale salam alec, l'embroche à sec, pendant qu'il lui galoche la schneck. La France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard. Le roi est mort ce soir et le peuple criait l'histoire. La France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard. Le roi est mort ce soir et s'est planté dans ma mémoire. Mes yeux et mes oreilles s'en souviennent, parce que ça, ça a de la dégaine, parce que leur date, c'est la mienne. Alors faites-moi plaisir, si vous croisez les mecs de Tunis, dites-leur psar
Artek, dites-leur merci et dites-leur que je vous ai personnellement mandaté pour leur dire qu'il y a de la place en France, il y a de la place en France, il y a trop de place en France. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe, dites-leur qu'il y a de la place, dites-leur qu'il y a de la place. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe, dites-leur qu'il y a de la place.
Alors, on revient sur les violences et on va parler de violents casseurs qui
sévissent,
frapper les locaux de la CNT à Lille. Vas-y.
Donc, on n'a pas de jingle. Non. Donc, à Lille, mercredi 20 donc de cette semaine, suite à une manifestation, quelques militants militantes se sont retrouvés à la maison des syndicats de la CNT pour ranger le matériel, faire le point. Et ils ont été rejoints ensuite par d'autres camarades. Mais c'est alors que les forces de l'ordre sont arrivées et ont exigé de rentrer dans le local de la CNT. Sauf qu'en l'absence de documents expliquant leur démarche et justifiant de leurs droits, les militants présents leur ont refusé l'accès. Donc les forces de l'ordre ont alors menacé de casser la vitrine et de pénétrer par la violence. Ils ont fini par défoncer la porte au bélier et pénétrer dans le local, saccager une partie du matériel et procéder à une fouille. Deux personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue, qui a été renouvelée hier pour 24 heures. Ils devaient passer en comparution immédiate cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Lille. Mais leur procès a été fixé au 25 mai. Ces deux personnes sont donc d'ici là sous contrôle judiciaire. N'ont pas d'obligation de pointage, mais sont interdits de manifestation et de rassemblement. Alors, il y a une vidéo que vous pouvez voir sur Internet, puisqu'un voisin a filmé la scène depuis les étages de l'immeuble d'en face. Et donc, effectivement, on y voit d'abord un policier entouré d'une vingtaine d'agents civils, brassard orange sur le bras, qui tente de défoncer la porte à coups de pied, à coups d'épaule, à nouveau à coups de pied. À l'intérieur, par la vitrine, on voit des militants se déplacer, bouger un peu du matériel, on imagine, pour bloquer et se barricader. Puis, enfin, deux policiers utilisent un bélier, finissent par ouvrir.
De gros, gros casseurs. Enfin, les images sont assez
c'est un peu vénère.
C'est impressionnant. Ouais.
Vous conseille de regarder la vidéo pour vraiment voir ce que sont des casseurs.
Et donc, effectivement, ils poussent la porte qui semble obstruée et ils se faufilent tous l'un après l'autre pour rentrer dans le local. Donc, trois personnes sont arrêtées et sorties du local menottées et un policier en civil en désigne deux. Donc, ces deux personnes qui sont après emmenées. La rue est bloquée de part et d'autre par des barrières de policiers pour éviter aux personnes de passer et de voir ce qui s'y passe. Et on voit un petit groupe réuni du coup des côtés de la rue qui crie « Libérez nos camarades ». Et on sait aussi qu'après ils ont été retrouvés par d'autres personnes qui venaient de la manifestation. Et les policiers sont a priori après restés encore une demi-heure à peu près. Et comme à leur habitude, ont gazé la rue et les passants avant de repartir. Et du coup les militants après ont pu retrouver les gens et voir un peu les désastres dans le local.
Une petite signature à eux, le gaz lacrymogène. Et du coup, ils étaient quand même une trentaine au moins, non, devant les locaux.
Ouais. Ouais,
j'ai plus ceux qui bloquaient la rue en amont et en aval.
Oui, et puis il y a eu plein de fourgons après qui sont venus en renfort. Etc. On ne voit pas sur la vidéo, mais sur les autres écrits, on voit qu'ils sont vraiment. Enfin, on sait qu'ils étaient vraiment nombreux. Et qu'une fois dans le local, les policiers ont donc effectivement saccagé une partie du matériel et procédé à une fouille en profondeur. Ils sont restés environ une demi-heure, une heure. Ils ont consulté des documents confidentiels et notamment sur les travailleurs que la CNT donc défend. Ils ont apparemment menacé les militants à la matraque qu'ils ont fait allonger par terre les personnes qui étaient dans les locaux et donc voilà, donc bah, c'est effectivement grave et nouveau là ce qui se passe. On passe encore un cap dans la répression sous l'état d'urgence qui donne un cadre légal à toutes ces violences policières. Attaquer un local syndical, bah, c'est attaquer un outil de défense pour les travailleurs et un lieu d'accueil dans lequel les militants et les personnes qui les sollicitent devraient pouvoir se retrouver en toute sérénité, mais ça n'est plus le cas. Et donc le procureur adjoint de Lille a justifié ces violences ainsi et de manière un peu floue en disant « Les policiers agissaient en flagrant délit après avoir constaté des violences commises par deux personnes sur un agent de la force publique au cours d'une manifestation. Ces personnes, après avoir pris la fuite, se sont réfugiées au siège de la CNT et ont refusé de sortir. » Voilà, donc ce qui explique les faits des forces de l'ordre, mais bien sûr il n'a pas répondu aux questions sur la nature des violences. Il y a aussi un communiqué de la CNT de Lille qui dit qu'elle voit aussi dans cette attaque l'occasion pour les pouvoirs publics de prendre une revanche contre leur syndicat pour le soutien et l'aide qu'ils apportent sans faillir aux migrants et réfugiés, ainsi que l'occasion de dévaster le local qui avait servi pendant des mois de cantine le jour et de refuge contre le froid et la pluie, de dortoir la nuit aux réfugiés, aux mineurs isolés, abandonnés par les pouvoirs publics. Voilà un peu donc ce qui s'est passé, et puis notamment le procès qui est fixé au 25 mai des deux personnes arrêtées. Donc on vous retiendra au courant.
Ok. Et maintenant, on va rester dans la rubrique nationale. Alors désolé, on a pas mis le jingle, mais parce qu'on l'a pas.
Ah non, c'est encore de ma faute.
Et on va vous parler en fait d'un mouvement donc qui se passe à Mayotte. Un mouvement qui a été déclenché le 30 mars. Donc c'est une grève générale qui a été lancée par un appel intersyndical et qui fait suite à un mouvement en fait qui est engagé depuis novembre et qui a été interrompu, suspendu à cause de l'état d'urgence. Et donc en fait, ce mouvement, il réclame un truc qui... C'est un peu le combat là-bas depuis pas mal d'années. Ils ont mis un nom derrière ce truc-là. Ça s'appelle, c'est un mouvement qui réclame l'égalité réelle. Donc voilà. Donc on va expliquer un peu ça. Donc en fait, il faut savoir que Mayotte depuis 2011 est devenu officiellement un département de la France, mais il y a un gros décalage parce que c'est un département mais qui ne jouit pas du tout des mêmes droits que les autres territoires français, donc dans plusieurs domaines. Donc en fait il y a même un secrétariat d'État qui a été créé pour cette question là qui s'appelle secrétariat d'État égalité réelle. Donc voilà, et en fait donc ces inégalités, c'est notamment le code par rapport au code du travail, le code de la sécurité sociale qui s'applique pas encore pleinement. Les Mahorais sont encore aux 39 heures. Beaucoup de mesures d'aide sociale sont également revues, sont plus basses. Par exemple, pour citer le RSA qui en principe est à 525 euros, ne s'élève à Mayotte que à 262 euros. Et c'est aussi, il n'est pas possible là-bas de bénéficier de l'aide pour le logement ou du congé parental. Donc voilà, en fait, c'est tous ces gros décalages qui sont très très fortes, qui sont très très forts là-bas. Et donc, en fait, ce mouvement, c'est pour ça, c'est pour forcer un peu le gouvernement à réagir et à mettre à jour toutes ces questions. Donc, ils demandent en gros l'alignement des aides sociales, l'application intégrale du code du travail, etc., ou encore la même indexation de salaire, notamment pour les fonctionnaires, puisqu'en fait, l'État français donne ce qu'on appelle une surrémunération pour les fonctionnaires dans les Tom-tom, c'est comme ça qu'on dit.
Rom-com,
ouais. Puisque la vie là-bas coûte plus cher. Donc voilà. Donc ça, c'était depuis le 30 mars. Donc en fait, le mouvement a duré une quinzaine de jours et il a eu un pic de violence un peu la semaine dernière. Donc notamment dans la nuit, donc à partir de lundi, où il y a eu pas mal d'émeutes qui ont éclaté, il y a des personnes qui ont été interpellées et qui ont été condamnées à des peines qui allaient de 1 à 8 mois d'emprisonnement. Donc ces violences se sont un peu poursuivies jusqu'à mercredi. Et du coup, en fait, il y a eu les syndicats qui ont été reçus au ministère d'Outre-mer, donc à Paris, le vendredi 15 avril. Donc ça sent un peu le truc de « on vous reçoit » parce qu'on sent bien que c'est tellement tendu là-bas qu'on peut plus rien contrôler. Donc on va essayer d'apaiser la situation en vous montrant que on va faire des choses. Et donc ils sont revenus le vendredi avec ils ont signé un peu des espèces d'accords sur quelques mesures qu'ils allaient entreprendre, mais c'est quand même un truc on sent que c'est pour calmer quoi, et que c'est, on sait pas trop si ça va pas changer la situation là-bas aussi radicalement que ce que voudraient les gens. Donc en fait, en gros, ils ont obtenu des accords sur le code du travail notamment. Alors en fait, c'est des accords, c'est pas des mesures qu'ils vont mettre en place, c'est plutôt par exemple pour le code du travail, ils vont commencer à le mettre à jour donc au 1er janvier 2018. Donc c'est quand même pas pour tout de suite. Il y a aussi le code pour la sécurité sociale. Donc pareil, c'est ils promettent d'en discuter avec de prendre en compte la question. En fait, c'est ça. En fait, c'est juste ok, on va prendre en compte cette question-là. Pareil sur le donc par rapport sur les un point sur les retraites notamment. Donc avec un accord, enfin une concertation interministérielle et l'engagement de travaux avec les partenaires sociaux. Donc des trucs très très flous. Et puis aussi un point là c'est des points très précis qui ont été validés par les syndicats qui sont allés là-bas donc pareil pour une CMU pour les habitants de Mayotte parce qu'ils n'ont pas le droit à la CMU là-bas. Donc voilà, et donc en fait les dirigeants syndicaux sont rentrés vendredi à Mayotte pour faire le compte-rendu. Et en fait, les gens étaient pas du tout contents parce que ils se sont dit mais pourquoi vous avez signé ce truc là et tout. Et les gens étaient quand même assez motivés pour poursuivre la grève, mais finalement ils ont décidé contre toute attente de suspendre un peu le mouvement. Mais il y a quand même plusieurs raisons. C'est parce que c'est vraiment la situation est vraiment très compliquée. Enfin, les gens sont un peu perdus. C'est très, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de, c'est un peu, la semaine dernière, en fait, il y a eu pas mal de blocages. Toute l'île était paralysée. Donc voilà, la situation est vraiment difficile à vivre pour les gens là-bas. Et c'était un peu ce truc-là aussi d'essayer de souffler. Après, je vous avouerai, j'ai pas trop. C'est compliqué en fait de savoir exactement ce qui se passe là-bas, etc. Mais en tout cas, la décision a été de suspendre le mouvement. C'est pas de l'arrêter, en faisant passer quand même le message au ministère qu'ils attendaient un geste concret et que sinon ça allait s'empirer quoi. Donc il y a une autre entrevue qui est prévue le 26 avril pour évaluer la situation financière des différentes communes là-bas. Donc voilà, mais on sent que ça a été très précipité par les violences qui ont eu lieu dans l'île la semaine dernière.
Et on enchaîne tout de suite, puisqu'il nous reste juste 5 minutes, avec les nouvelles du Kurdistan. On a donc une camarade envoyée spéciale là-bas qui nous fait parvenir toutes les semaines des nouvelles. Et pour la première fois, elle s'est enregistrée, on l'écoute.
Voici les dernières nouvelles du Bakou, au Kurdistan du Nord ou de Turquie. L'armée turque continue les sièges et les attaques. À Nusaybin, les affrontements continuent alors que la ville traverse son 39e jour de siège. Les résidences des populations sont bombardées et certains quartiers sont encerclés par les véhicules blindés. À Gever ou Yusekova, l'État turc a officiellement annoncé la fin des opérations et le couvre-feu qui court depuis 41 jours est maintenu. Des zones rurales, comme par exemple le village de Meusudava, ont été bombardées. À Silopö, en ce 16e jour de couvre-feu, c'est à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau que le gouvernement mène sa guerre contre les civils. Dans le quartier de Bazak, les maisons ont été démolies et il est impossible pour les résidents de récupérer leurs biens. Dans la nuit de mercredi à jeudi, La police a multiplié les perquisitions et les arrestations dans la province de Wan, en menant des patrouilles toute la nuit. Et ils ont semé sur tout leur parcours nombre de slogans tels que « Daesh est venu, vous êtes finis ». Non content de la pression exercée sur le territoire turc, le gouvernement s'attaque aussi aux Kurdes de Rojava, au Kurdistan de l'Est en Syrie. L'armée turque a attaqué la ville de Tifrifat, puis les villages de Kermiklit et Sekela. Il n'y a pas eu de victimes. En revanche, 8 Syriens et Syriennes ont été tués à la frontière turque. La négation de la guerre en cours et de ses pratiques politiques ignobles fait partie de la stratégie du gouvernement turc face à sa population comme face à la communauté internationale. Malgré un grand nombre de recours judiciaires, il est toujours impossible pour les familles de récupérer les corps des martyrs. Un journaliste allemand qui voulait réaliser un reportage à la frontière syrienne à propos des réfugiés s'est vu interdire d'entrer sur le territoire turc. En Allemagne, un sketch tournant Erdogan en ridicule a été diffusé. Ce dernier a immédiatement répliqué en attaquant les auteurs en justice. Le ministère des Affaires étrangères allemand a trouvé judicieux de publier une liste de recommandations à l'intention des citoyens et citoyennes allemands et allemandes en se rendant en Turquie. Il y est formellement déconseillé de faire en public des déclarations politiques contre l'État turc, ainsi que de manifester de la sympathie pour les organisations terroristes. Mais la résistance continue. 45 policiers ont été tués à Şırnak par les YPS. Le Bakur, Kurdistan du Nord, en Turquie, est loin d'être la seule région du Kurdistan en lutte. En Iran, le gouvernement réprime et assassine le peuple kurde dans le plus grand silence. Mais les Kurdes du Rojelat résistent, et cette semaine, quelques nouvelles sont parvenues jusqu'ici. Les Kurdes d'Iran ont une très longue histoire de mouvements armés contre le gouvernement iranien. Les combats avaient cependant majoritairement stoppé depuis une dizaine d'années. Pourtant, depuis quelques temps, les partis d'opposition kurdes iraniens envoient le Peshmerga, nom donné aux combattants kurdes, de nouveau vers la frontière. À l'occasion du nouvel an kurde, Mustafa Hijri, secrétaire général du PDKI, parti démocratique du Kurdistan d'Iran, a annoncé officiellement la reprise de la lutte armée et l'attaque de plusieurs bases militaires. Le gouvernement iranien a immédiatement répondu par un déploiement militaire massif dans tout le Kurdistan. Des chars, des unités, de nouvelles armes défilent dans les rues des villes. Le ministère des Affaires étrangères tente également de faire pression sur le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak afin qu'ils entravent eux-mêmes la circulation des Peshmerga Rojelati, c'est-à-dire kurdes iraniens. De plus, depuis le 18 avril, les travailleurs de plusieurs villes frontalières sont en grève. Après des décennies de sous-développement programmé, le commerce transfrontalier, souvent illégal, reste la seule source de revenus possible pour les populations des régions de la frontière kurde. Ceux-ci sont particulièrement touchés par la répression, l'armée iranienne assassinant librement sur toute la frontière. Le 18 avril à Banna, les passeurs, les commerçants et les ouvriers décident de fermer le marché et toutes les boutiques pour manifester leur colère. Les nouvelles de la grève se répandent rapidement et les travailleurs de Sardash Marewan se joignent à leur mouvement.
Alors, rapidement pour l'agenda, parce qu'on n'a plus trop le temps, vous pourrez de toute façon tout retrouver sur rebellion.info. Demain, à la Plume Noire, suite à l'arrestation d'un camarade le 9 avril dernier lors d'une manifestation contre la loi travail et à sa condamnation à un mois ferme avec mandat de dépôt plus 1900 euros d'amende, la coordination des groupes anarchistes de Lyon met en place la solidarité en organisant une soirée de soutien. Donc demain à 20h à la Plume Noire, et l'argent récolté sera remis aux camarades et à sa famille pour payer les amendes, et si de l'argent est retourné, il servira à d'autres victimes de la répression policière et judiciaire. Et puis, pour que vous ayez le temps de vous préparer, vendredi 29 avril